Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast, la RSE de la théorie à la pratique. La RSE est un thème devenu central pour le politique, pour les citoyens et pour les entreprises. Avec le contexte actuel, il est nécessaire pour les entreprises d'aborder ce sujet. Elles ne peuvent ignorer la performance environnementale et sociale et elles doivent dépasser la seule performance financière. Aujourd'hui, on peut même se demander si les entreprises ont une responsabilité politique qui va au-delà du respect des lois. Pour parer à de potentielles pénuries et pour prévenir des risques juridiques ou encore de réputation, les directions des entreprises sont face aujourd'hui à des dilemmes éthiques, moraux et économiques, et elles doivent prendre des décisions qui seront potentiellement douloureuses, humainement et politiquement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants qui vont nous aider à nous y retrouver et nous donner concrètement les premiers éléments pour se lancer. François Arnaud, ex-directeur financier, conseil en transition bas carbone, créateur et rédacteur de la revue de presse Pas de côté, consacrée à l'actualité environnementale. Et Philippe Lator, qui a une longue expérience d'associé de fonds d'investissement, il apporte aujourd'hui son expertise au cabinet d'avocats Aston et exerce une activité de conseil de salariés sur les sujets de partage de la valeur et d'association à la gouvernance. Il a publié en 2021 le nouveau contrat social avec Christian Pierret. Messieurs, c'est à vous. D'abord, qu'appelle-t-on RSE ?
Merci Karina pour votre invitation. Alors la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la prise en compte par les entreprises sur une base volontaire et parfois aussi plus contraignante juridique des enjeux environnementaux, sociaux et économiques de leur activité. Alors cette définition appelle trois commentaires. Le premier, c'est que quand on a dit cela, on voit que le domaine est extrêmement large puisqu'il inclut, on les a même énumérés, tous les critères dits ESG, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'environnement, du social, de la gouvernance des entreprises, tout ce qu'on appelait autrefois le développement durable ou ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la sustainability. Donc un domaine extrêmement large. Ensuite, deuxième commentaire, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois une base volontaire et puis donc qui dépend de l'entreprise et de ce qu'elle veut faire, et puis une base plus légale ou plus contraignante. On touche là déjà du doigt ce sujet des contraintes réelles versus des contraintes que l'entreprise veut bien se donner, et donc on ouvre le sujet éventuel du greenwashing, de l'impact washing, bref, de choix que pourraient faire les entreprises sur des contraintes qui leur conviennent bien sans véritablement qu'il y ait d'effets très positifs dans leur démarche. Alors toutefois, il y a un cadre légal qui est de plus en plus contraignant, que ce soit au niveau européen ou bien au niveau français. Par exemple, sur ce niveau, on peut rappeler tout l'intérêt de la loi Pacte qui a notamment revu la définition de la société et de sa gestion dans cet article 1833 qui dit que la société doit être gérée dans son intérêt social et maintenant en considération des enjeux socio-environnementaux. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle contrainte par rapport à l'entreprise et à son intérêt social de prise en compte des enjeux sociaux environnementaux. Et puis cette même loi Pacte a prévu également situations dans lesquelles l'entreprise peut choisir d'avoir une raison d'être et, encore plus contraignant et plus fort, de prendre un statut d'entreprise à mission, ce qui veut dire que dans ce cas-là, elle va prendre un certain nombre de modes de fonctionnement, d'organisation qui vont la contraindre un peu plus dans le respect des objectifs qu'elle s'est donnés sur ces thèmes-là. Et troisième commentaire sur cette définition, c'est que derrière tout ça, il y a un mouvement très puissant. On parle d'un vrai tsunami, d'une accélération très forte de ces thèmes d'environnement social et de gouvernance, tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est très, très forte du fait que dans le fonctionnement du capitalisme aujourd'hui, qui s'applique à peu près dans tous les pays du monde, de l'Europe à l'Amérique, y compris à Russie ou à l'Asie ou à la Chine, ce développement du capitalisme, reconnu partout comme mode de fonctionnement efficace, a en même temps des externalités négatives croissantes et très fortes, et en particulier dans nos deux domaines dont nous voulons parler aujourd'hui, qui sont l'environnement et le social. L'environnement, évidemment, avec les thèmes de tout ce qui est la destruction du sujet d'environnement, et puis aussi dans le social, évidemment, avec la dynamique extraordinaire des inégalités que l'on voit bien et que tout le monde reconnaît aujourd'hui, liées à la financiarisation et à la flexibilité qu'impose le capitalisme aujourd'hui.
Merci Karina pour l'invitation, et vous avez bien fait de nous réunir avec Philippe, parce que le GIEC, donc le groupe d'experts internationaux sur le climat, dans son 6e rapport, a justement précisé qu'on n'arriverait pas à résoudre les sujets environnementaux, en particulier celui des gaz à effet de serre, sans s'attaquer au sujet des inégalités. Donc les liens entre social et environnement sont clairement établis, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de les traiter dans ce cadre de RSE plus global. Alors, sur les externalités négatives liées à l'environnement, Philippe a commencé un petit peu à en parler. On a les sujets qui concernent le vivant, comme la biodiversité, les différentes pollutions de l'air, de l'eau, les sujets de la consommation des ressources. Et évidemment, le sujet qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, celui des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier le CO2. Alors, ce sujet des émissions de gaz à effet de serre, donc ça, c'est le sujet qui est connu, et c'est pour ça qu'on parle de décarbonation pour émettre moins de carbone que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce sujet-là qui engendre l'effet de serre additionnel et les dérèglements climatiques qu'on connaît. Alors, peut-être avant de rentrer dans le concret de comment, en tant qu'entreprise, on gère ces sujets ou on les adresse, peut-être rappeler un ou deux ordres de grandeur. D'ici à 2050, pour tenir l'accord de Paris et limiter le réchauffement à plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, on doit diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 5. Donc c'est quand même colossal. Aujourd'hui, un Français émet une petite dizaine de tonnes de CO2 équivalent par an. On doit passer à 2 tonnes en 2050, donc diviser par 5. Et puis, on doit aussi multiplier par 2 les puits de carbone, donc ce qui a la capacité d'absorber du carbone, notamment les forêts, tout ce qui est de la photosynthèse. Et ça, c'est aussi un enjeu énorme et qui a des liens très forts avec les entreprises, parce que là, on va parler des sujets d'artificialisation des sols, etc. Donc voilà, environnement, sujet beaucoup plus large que le carbone, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au carbone, à la décarbonation et à comment les entreprises composent avec ces risques physiques, ces risques de transition et les enjeux climatiques.
Merci à tous les deux. On a l'impression, en suivant l'actualité, que toutes les entreprises s'engagent sur ce thème, mais qu'en est-il réellement ?
Alors, il y a effectivement beaucoup de communication, ce qui est d'une certaine manière un bon signe, hein, parce que si elles le font, c'est qu'elles considèrent bien que ça devient un sujet important pour leurs parties prenantes. En revanche, on a encore un grand écart entre les actions de la communication et les actions réelles, donc ce qu'on appelle communément du greenwashing en matière environnementale. Alors il y a des règles qui viennent pour encadrer un peu ce genre de communication et s'assurer qu'elles sont pas trop trompeuses, mais on a encore des aberrations et qui peuvent laisser penser que les entreprises s'attaquent de manière très vigoureuse à ce sujet, alors que quand on regarde un peu dans les détails, on est parfois sur de la mesure un peu symbolique. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a Amazon là, qui a fait des publicités avec des chèvres qui s'occupaient de l'herbe en bordure des entrepôts. Et donc le discours, c'était éco-pâturage, pas besoin de tondre le gazon avec des moteurs thermiques. Évidemment, le souci d'Amazon, ce n'est pas la tonte de leur pelouse autour des entrepôts. Si c'était ça, tout irait plutôt bien. Et donc, on tombe là clairement entre un grand écart de communication versus les pratiques réelles. Et donc, c'est pour ça qu'en matière de décarbonation, on voit beaucoup passer d'entreprises qui se veulent neutres en carbone ou atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc là, vigilance, parce que le diable se cache souvent dans les détails, notamment sur la notion des périmètres qui sont pris en compte pour parler de cette neutralité carbone. Alors c'est un tout petit peu technique, mais vous avez les scopes 1, 2 et 3 qui vont définir l'ampleur du périmètre pris en considération. Et parfois, les entreprises ne s'engagent que sur une réduction ou une neutralité sur les scopes 1 et 2, qui sont que les émissions directes, alors que la plupart des émissions sont en réalité des émissions indirectes. Alors juste pour rendre ça plus concret, vous avez tous les une grande partie des aéroports européens qui se disent aujourd'hui neutres en carbone. Quand on regarde les petites lignes en caractère 8, c'est scope 1 et scope 2, ça veut dire que ils vont prendre que l'énergie dans l'aérogare, voire et plus le carburant utilisé pour les véhicules qu'ils détiennent en propre et qui tournent sur le tarmac. Mais donc, vous n'avez pas évidemment les avions, vous n'avez pas la construction de l'aérogare, vous n'avez pas la construction de la piste d'atterrissage. Donc, vous avez un bilan carbone qui est tout étriqué et qui ne correspond pas du tout à l'ensemble des externalités en matière de gaz à effet de serre de l'aéroport. Et donc ça, c'est un des pièges qu'on voit beaucoup passer en ce moment et sur lesquels il faut être extrêmement vigilant en tant que consommateur parce que, à bien des égards, la neutralité carbone, c'est un piège dans lequel il faut rester vigilant.
Alors, en matière de social et de gouvernance, en particulier social, le S dans ESG, il est généralement plutôt en mode minuscule hein, et pas en mode majuscule. Ce n'est pas le parent fort de l'ESG aujourd'hui. Certes, il y a des sujets qui relèvent de cette catégorie qui sont traités depuis longtemps, plus longtemps, où il y a des progrès, comme les sujets d'égalité homme-femme, les sujets de travail des enfants, de diversité sociale, d'accident du travail. Mais le sujet qui concerne notre thème d'aujourd'hui, qui est le partage de la valeur, et qui est pourtant évidemment central face à la financiarisation qu'on a rappelé tout à l'heure, il est finalement assez peu mis en avant. Il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur l'humain dans l'entreprise hein, qu'on voit se développer avec des thèmes sur la raison d'être, sur le purposeful leadership, le leadership qui a du sens, qui donne du sens. Donc tout cela est intéressant parce que on sent qu'il y a une prise en compte de comportements, une volonté de favoriser des comportements plus vertueux. Donc tout ça est une démarche très positive, mais elle est clairement insuffisante par rapport à la question de base, hein, qui est la question de partage de la valeur.
Allons voir désormais du côté des bons élèves qui dépassent la posture théorique et agissent concrètement en manière de RSE. Si l'un de vous deux veut s'exprimer.
Oui, sur le sujet de la décarbonation, je dirais qu'on retrouve les bons élèves du côté de ceux qui ont compris l'enjeu réel en réalité. Parce qu'en fait, quand on mesure à l'aide d'un bilan carbone l'empreinte carbone d'une entreprise, on va mesurer son exposition, sa dépendance, la dépendance de son modèle d'affaires aux énergies fossiles. Parce que qu'est-ce qui émet majoritairement du carbone? C'est la combustion des énergies fossiles. Donc en réalité, quand l'entreprise a compris ça et qu'elle essaie de faire baisser son empreinte carbone, ça veut dire qu'elle essaie de faire baisser son exposition aux énergies fossiles sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, du tout démarrage jusqu'à la fin de vie de ses produits. Et en faisant baisser son empreinte carbone et donc son exposition aux énergies fossiles, en réalité, elle devient plus forte parce qu'elle est plus forte, plus résiliente en cas d'augmentation des prix, ce qu'on voit aujourd'hui. Elle est plus forte en cas de pénurie, ce qu'on pourrait voir demain, et donc elle gagne en résilience. On a aussi un deuxième aspect, c'est que l'entreprise qui fait le travail sur son empreinte carbone de manière volontariste et engagée va aussi avoir des arguments supplémentaires pour attirer des talents, pour les conserver, mais aussi des arguments supplémentaires pour obtenir des clients. Moi, sur la partie de mon activité bilan carbone, j'ai plusieurs clients qui ont fait appel à moi parce que leurs propres clients leur demandaient de faire baisser leur empreinte carbone. Parce que quand vous prenez du scope 3, vous devez récupérer dans votre propre bilan carbone les émissions de vos fournisseurs. Et donc, on peut citer l'exemple de L'Oréal, qui est assez engagé sur ce sujet, qui impose à une partie de ses fournisseurs, ou en tout cas qui demande à une partie de ses fournisseurs de travailler sur leur empreinte carbone, pour qu'eux-mêmes voient leur empreinte carbone diminuer. Donc l'entreprise qui fait ce choix de s'engager dans cette démarche va aussi avoir des arguments supplémentaires pour aller récupérer des clients en B2C comme en B2B, ou même auprès des collectivités. Vous avez aujourd'hui beaucoup de collectivités publiques qui intègrent la maîtrise de l'empreinte carbone dans les conditions d'appel d'offres. Donc là encore, ça devient un avantage compétitif pour l'entreprise si elle fait en amont son travail sur son empreinte carbone. On a aussi le sujet des taxes, de la réglementation, qui viennent percuter, qui vont encore plus percuter les entreprises qui ne feront pas l'effort sur l'empreinte carbone. Donc en réalité, moi ce que je constate, c'est que les bons élèves, c'est ceux qui arrivent à anticiper, qui comprennent vraiment l'intérêt de l'empreinte carbone et qui se disent que ce n'est pas une démarche philanthropique ou désintéressée pour la planète, mais c'est aussi dans leur intérêt propre pour devenir plus résilient, plus compétitif face aux concurrents.
Alors, je viens d'un métier qui est, comme vous l'avez rappelé, Karina, qui est le capital investissement, le private equity, c'est-à-dire les opérations de LBO, c'est-à-dire les opérations de rachat d'entreprises avec endettement dans lesquelles les managements sont associés, c'est-à-dire qu'ils sont actionnaires. Et je peux témoigner, et je crois que tous ceux qui connaissent ce métier, cette industrie, diront la même chose, que c'est un mode très vertueux de développement des entreprises, de création de richesses, parce qu'il y a un alignement entre le top management, l'actionnaire, un management qui sait qu'il a certains risques, mais qu'il a en même temps des opportunités, tout en travaillant dans un environnement avec une gouvernance très claire, des opportunités en ayant investi dans l'entreprise, d'en avoir aussi les fruits et les bénéfices. Et donc ce modèle-là, pourquoi le réserver et finalement le limiter au top management quand d'une autre façon, on peut aussi, pas exactement de la même façon, mais d'une autre façon, on peut aussi associer en les transformant en actionnaires les salariés. Et c'est ça, en fait, une façon concrète aujourd'hui de travailler le S de l'ESG, c'est sur le partage de la valeur, d'associer clairement comme actionnaires les salariés. Pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation, et là on en revient au paysage un peu général qu'on décrivait au début, hein, qui est cette financiarisation extrême que tout le monde veut corriger aujourd'hui, et qui est de faire situation dans laquelle on a vu les créanciers plutôt, en particulier au cours des 2-3 dernières années, avec la crise Covid, plutôt très bien traités, en particulier avec les prêts garantis par l'État, qui ont fait que finalement les créanciers ont traversé cette période difficile sans trop de dégâts, d'où voir les excellents résultats des banques, hein, en particulier. Les actionnaires qui ont pu parfois avoir des situations un peu complexes, hein, un peu difficiles sur la valeur de leurs actions, mais quand les choses ont été dépassées, retrouver un potentiel de création de valeur et de, à horizon 1, 2, 3, suivant les secteurs et reprise des secteurs, 2, 3 ans de création de beaucoup de valeur pour leurs actions. Et finalement, les salariés se retrouvaient dans la plus mauvaise situation puisque leur est imposé aujourd'hui clairement une flexibilité, une adaptation rapide nécessaire, donc des contraintes qui pèsent sur eux, mais sans qu'ils aient l'upside que finalement les actionnaires peuvent avoir. Donc les salariés prennent un risque, hein, qui est celui de s'engager dans le temps, hein, dans une entreprise, comme l'actionnaire prend un risque évidemment qui est d'avoir investi de l'argent, mais sans avoir en face le même retour. Donc le plus grand risque qu'ils ont, c'est de voir passer le TGV et eux de rester à la gare sur le quai. Donc ce que l'on doit rechercher aujourd'hui, il me semble, eh bien, c'est d'associer les salariés au capital, et c'est dans l'intérêt évidemment des salariés et dans l'intérêt de l'entreprise elle-même, parce que bah, c'est une façon de dynamiser l'ensemble des équipes, management, salariés, et de faire des salariés une partie, ce qu'ils sont, hein, déjà par leur engagement, une partie constituante qui bénéficie aussi des aspects positifs de la création de valeur à leur niveau.
Donc pourquoi toutes les entreprises n'agissent pas ?
Ça, c'est une bonne question. J'aimerais beaucoup avoir la réponse. Je crois qu'on est encore dans une phase de déni, hein, où on a les éléments sous les yeux, on a un consensus scientifique absolu sur le sujet du dérèglement climatique. Dans le dernier rapport du GIEC, on a encore des éléments encore plus alarmants qui parlent de 3 ans avant d'atteindre un pic d'émissions. Sinon, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de réduction du réchauffement. Donc, on a les éléments qui sont intellectuellement sous nos yeux, mais on a du mal à les intégrer avec cette notion de temps long, où on ne sent pas forcément les effets là, tout de suite, dans nos vies quotidiennes. Et donc, ça nous empêche de ressentir le danger et l'urgence. Ça me fait un peu penser à l'histoire de la grenouille, je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous laissez monter la température tout doucement, degré après degré, elle va pas sentir le danger, et au moment où ça se deviendra intenable et qu'elle va essayer de bondir de la casserole, ses fonctions nerveuses et musculaires seront trop atteintes pour en sortir. Alors que si vous jetez une grenouille, je te conseille, hein, mais dans une casserole d'eau bouillante, dans une sorte d'élan de vie, elle va tellement avoir le réflexe et la sensation du danger qu'elle va réussir à s'en extraire de manière immédiate. Et voilà, j'ai un peu ce sentiment parfois qu'on est dans à cause de cette notion de temps long, parce qu'évidemment les échéances climatiques et planétaires et de la Terre ne sont pas sur des temps humains, donc forcément on n'a pas cette prise de conscience-là. Et puis je crois que dans les entreprises, on a encore, c'est le deuxième problème, on a encore une performance financière qui fait l'ensemble de la performance. On parle pas assez de performance environnementale, de performance sociale. Quand c'est le cas, c'est relégué dans des reportings extra-financiers, donc ils portent quand même bien leur nom, hein. Extra-financiers, ça veut dire que c'est quand même à côté, et puis on voit bien derrière ce terme-là que c'est le financier qui compte. Donc là-dessus, il y a quand même pas mal d'idées, hein, qui sont en train d'être mises sur la table dans le débat public pour justement faire converger ces notions de triple performance, performance financière, environnementale et sociale. Vous avez notamment Pascal Demurger, le président de la MAIF, qui porte des idées assez novatrices là-dessus. Par exemple, de faire un impôt sur les sociétés qui serait variable en fonction des externalités. Une entreprise qui jouerait le jeu pour les externalités sociales et environnementales pourrait avoir un impôt sur les sociétés plus bas, alors que celle qui n'en tiendrait pas compte aurait un impôt sur les sociétés plus élevé. Voilà une idée qui permettrait de réunir et de faire converger les différentes performances. Toujours Pascal Demurger propose aussi de conditionner toutes les subventions à une trajectoire à bas carbone clairement identifiée avec des objectifs et des résultats. Voilà des initiatives qui peuvent permettre de faire converger performances financières et autres performances sociales et environnementales pour réaligner en fait tous les intérêts de l'entreprise vers des actions qui bénéficient à l'ensemble des parties prenantes et pas seulement à l'actionnaire pour la partie financière.
Alors, pour le social, l'actionnariat des salariés, c'est un petit peu le même constat que ce que décrivait François sur l'environnement. C'est-à-dire que la France est plutôt un pays dans lequel l'actionnariat salarié est un peu plus avancé que dans les autres pays européens, mais en réalité, il est très limité et il concerne surtout les très grandes entreprises, entreprises du CAC 40, par exemple Bouygues, qui est l'entreprise qui a la part de ses salariés la plus importante au capital, hein, 21% du capital de Bouygues détenu par les salariés. Mais si l'on sort de ces très grandes entreprises et qu'on descend dans d'entreprises un peu plus petites, les ETI, les PME, la part est beaucoup plus faible, voire inexistante des salariés actionnaires. Et puis alors du côté des financiers, qui seraient normalement les premiers à, comme je le rappelais, avec les managers actionnaires, ils savent que c'est efficace. Alors en fait, derrière tout cela, on dit souvent qu'il y a un peu de paresse de leur part, ou en tout cas, tout simplement, tout ça est complexe. C'est déjà très compliqué pour des financiers de faire des transactions. Il y a des concurrents. Et donc, rajouter volontairement une contrainte supplémentaire qui est d'aller discuter avec les salariés sur la mise en place d'un actionnariat, eh bien, finalement, c'est un peu s'ajouter une complexité de trop. Et on voit par exemple que la loi Pacte, qui a prévu un mécanisme tout à fait intéressant de partage de la valeur, hein, jusqu'à 10% de la plus-value par les actionnaires peut être transférée dans des conditions fiscales ou sociales, de charges sociales très avantageuses, c'est-à-dire pratiquement 100, ben, tout ça a donné très peu de cas concrets, elle a été très peu utilisée. Preuve que finalement, ben, les actionnaires, mais aussi on pourrait dire les salariés, leurs représentants, n'ont pas su se mettre en avant ou discuter sur ces sujets pour pouvoir utiliser ce que la loi permettait.
Merci. Quel est alors concrètement, pour se lancer, la première démarche à effectuer ?
Alors je dirais pour la partie décarbonation que la première démarche, c'est d'abord la sensibilisation, d'essayer de le faire comprendre ce sujet, d'ailleurs de la manière la plus large possible, hein, pour embarquer tous les collaborateurs dans ce projet et essayer d'en faire un véritable projet d'entreprise. Des ateliers comme la fresque du climat, ça permet comme ça en quelques heures de comprendre les mécaniques, de comprendre les causes, les conséquences et tout ce qu'on peut faire pour éviter ce problème du dérèglement climatique, ou du moins l'atténuer. Et ça, je crois que c'est très important pour faire passer les messages en entreprise et transformer derrière. De manière très concrète, moi, je me suis posé la question l'année dernière parce que j'ai eu un client à qui j'ai fait un bilan carbone, et derrière, les actions n'ont pas été mises en place, les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai raté sur ce client-là? Qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport à d'habitude? Et en réalité, je l'ai compris après, c'est un client qui n'avait pas souhaité sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs et qui avait voulu juste faire l'analyse en fait, pour lui et pour voir un peu quels étaient les enjeux pour son entreprise. Et je crois que le fait de ne pas sensibiliser tout le monde, le fait de ne pas embarquer tout le monde dans le projet, fait que derrière, il a eu un peu la peur de imposer des éléments de contrainte et d'avoir peur que ces éléments ne soient pas compris par ses salariés. Alors qu'en réalité, quand on commence par la sensibilisation, c'est un peu tout l'inverse qui se passe, parce qu'une fois qu'on a fait l'étape de sensibilisation, on a plutôt des collaborateurs qui vont dire « bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on mesure avec le bilan carbone ? Est-ce qu'on passe à l'action avec des plans d'action de réduction ?» Et ça devient un projet d'entreprise très fédérateur. Une fois qu'on a sensibilisé, moi, je préconise vraiment de mesurer, parce qu'on a toujours des a priori en disant bah, « tel secteur d'activité ou telle entreprise » doit avoir ce poste-là ou un autre qui émet des gaz à effet de serre. Et en fait, on se rend compte que c'est que quand on mesure qu'on a vraiment les bons ordres de grandeur. Moi, j'ai un client qui voulait absolument mettre des panneaux solaires sur son toit avant qu'on fasse le bilan carbone. Une fois qu'on a fait le bilan carbone, il s'est aperçu que la partie électricité représentait 1% de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, s'il veut mettre des panneaux solaires, très bien, mais il va s'attaquer à 1% de son impact carbone. Et donc moi, mes recommandations, c'est évidemment de mettre les efforts sur les gros postes d'émission. Parce que c'est comme ça qu'on a les plus gros leviers de décarbonation et qu'on peut se mettre dans les trajectoires nécessaires pour suivre l'accord de Paris. Donc vraiment, les recos pour commencer, pour se mettre en avant, pour se mettre en chemin, c'est d'abord sensibiliser et ensuite mesurer. Et une fois qu'on a ces deux piliers en place, alors on peut passer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'évolution du business model pour qu'il devienne compatible avec les enjeux climatiques, à l'analyse des risques physiques et des risques climatiques. Après, on a de quoi enchaîner pour concrétiser les actions.
Alors, sur le sujet du partage de la valeur, donc du partage de la richesse, hein, c'est finalement assez simple. Il ne s'agit pas là de parler de participation ou d'intéressement. On n'est pas dans ce registre-là qui est plus intéressement et participation, finalement une affectation d'une part du résultat annuel de la société en complément des salaires aux salariés. Là, non, on parle de capital, on parle véritablement de l'argent qu'à un moment les actionnaires, quand il y a une cession, quand il y a une évolution du capital, peuvent appréhender. Et donc, quelle est la part qui revient à ce moment-là aux salariés? Alors, ce n'est pas la participation et l'intéressement, ce n'est pas le sujet non plus de la philanthropie, hein, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, en particulier du côté des actionnaires financiers, parfois dire « bon ben voilà, je redistribue une partie de ce que j'ai perçu à travers des commissions ou à travers une plus-value vers des directions que je choisis moi en tant qu'actionnaire ». Donc on n'est pas dans ce domaine-là, là on est vraiment dans le domaine du constat. À un moment donné, il y a un événement de liquidité, il y a une cession de capital, il y a une valorisation, et donc on va y avoir une partie qui va aller vers les salariés. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi Pacte, hein, qui maintenant permet ce mécanisme de partage jusqu'à 10% de la plus-value dans des conditions fiscales, charges sociales très avantageuses. Donc ça, c'est un premier levier qui est tout simplement rétrocédé de la part des actionnaires une partie de la plus-value sur les bases d'un accord qui aura été signé auparavant, donc dans un cadre bien établi. Il y a aussi tout le mécanisme des actions gratuites, donc des actions qui peuvent être données aux salariés. Mais là, vous l'avez remarqué, j'ai décrit deux systèmes dans lesquels, finalement, le salarié n'a pas investi. Il reçoit, ce qui est très bien, mais on pourrait peut-être dire que c'est insuffisant, parce que si on veut un véritable engagement et une prise de conscience et aussi une véritable réalité au fait d'être actionnaire, il y a aussi derrière l'idée qu'il y a eu un investissement, même si c'est un montant qui peut être modeste et qui peut donner lieu à des abondements, à des décotes, et donc finalement faire qu'il y a un certain environnement un peu plus sécurisé pour l'investissement, ou qu'il y aura des rétrocessions qui vont faire que le rendement par rapport à un actionnaire moyen va être beaucoup plus élevé pour le salarié. Néanmoins, je pense que c'est important qu'il y ait un chèque, qu'il y ait à un moment donné comme le management le fait, hein, évidemment comme l'actionnaire, tout actionnaire le fait, il y a un investissement avec, même si elle est très modeste dans son cas pour le salarié, une certaine prise de risque qui lui donne un statut tout à fait intéressant parce que quelque part, il est comme les autres, ce n'est pas juste de l'argent gratuit qu'il reçoit, c'est le retour à un investissement à un moment donné qu'il a fait. Et là, on peut souvent s'appuyer sur le stock d'intéressement ou de participation qui existe hein, dans le salarié a parfois n'ont pas perçu les sommes d'intéressement de participation, il les a bloquées dans un compte qui est dans l'entreprise. Bien voilà une première façon déjà de convertir cet argent qu'il pourrait percevoir par ailleurs et auquel il renonce de toucher tout de suite pour pouvoir le convertir en capital. Et ça, c'est une vraie façon, à mon sens, de transformer le salarié en un actionnaire. C'est même modestement de lui faire prendre avec un petit risque très limité, parce qu'il ne s'agit pas effectivement d'ajouter au risque de salarié, de perdre l'emploi ou de salarié un risque financier, mais néanmoins d'avoir un acte positif dans ce sens.
Merci infiniment à tous les deux pour vos éclairages et à très bientôt pour un prochain podcast.